En dehors du fait que je suis une actrice au développement, je me suis aussi consacrée au développement de ma communauté. Et là où je travaille, c'est chez moi. Je suis issue de cette communauté. Je n'ai jamais bougé de là que quand je partais étudier. C'est après le bac que je suis arrivée à Bamako. J'ai fait des études supérieures dans un institut, l'Institut Polytechnique Rural de Kasirougou. Après ces études supérieures, je suis retournée travailler chez moi, entre mes frères et mes sœurs, mes compatriotes. Et parce que nous faisons partie de la partie la plus déshéritée du Mali, c'est le nord du Mali. Le nord du Mali, c'est trois régions sur les huit régions du Mali. C'est la région de Tombouctou, la région de Kidal et la région de Gao dont je suis issue. Et ces trois régions constituent les deux tiers de la superficie du Mali. Et en termes de population, ne représentent que les 2,4% de la population générale du Mali. Et c'est une zone complètement désertique. Et là, cette zone avait été appelée longtemps la partie sud du Mali. Et parce que tout simplement, elle est très désertique. Il pleut rarement, rien ne pousse, rien ne pousse. L'activité qui marche la plus, c'est l'élevage, et qui est laissée à elle-même et aux pratiques traditionnelles. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune politique qui permet à cette activité d'entretenir son homme ou sa femme. Donc, immédiatement après les études, je suis retournée chez moi pour travailler au sein de ces organisations de la société civile, sinon dans le privé, et apporter un minimum de soulagement à la pauvreté qui ruine ces populations.
Alors justement, Madame Touré, c'est ce dont nous allons parler. Hein. Vous allez parler principalement justement de toutes ces femmes maliennes très courageuses. Nous avons en ligne également au Mali donc Maxime Winato, représentant d'ONU Femmes au Mali, avec qui vous travaillez, hein, Madame Touré. Merci Maxime Winato d'être avec nous. C'est un plaisir également de vous entendre. Comment allez-vous ?
Merci, je vais très bien, merci madame.
Alors, les féministes risquent de m'en vouloir si je ne vous pose pas d'emblée cette question que l'on vous a certainement posée des dizaines de fois. Alors, pourquoi un homme à la tête d'ONU Femmes Mali ?
Merci madame. En fait, il y a plusieurs considérations à cette question. La première, la plus immédiate, c'est que les hommes ont un rôle important à jouer dans l'égalité homme-femme, n'est-ce pas ? Longtemps, on a pensé que cette question était une question de femmes et on a laissé les femmes seules porter le fardeau de l'égalité homme-femme. Et actuellement, il y a un certain nombre d'hommes qui se rendent compte de l'importance de l'implication des hommes pour réparer un certain nombre d'erreurs qui, normalement, sont du fait de l'homme. Par exemple, la volonté de l'État de changer les choses que l'on a remarquées récemment dans les législations a été mise à défaut justement parce que les hommes qui se trouvent dans la matérialisation de la volonté de l'État n'ont pas toujours joué leur rôle. Et donc, une femme, je crois, a juste titre à penser qu'intégrer les hommes plus activement dans la lutte pour l'égalité des sexes serait une bonne chose. Et personnellement aussi, il faut dire, il y a l'expérience personnelle qui peut motiver ça, n'est-ce pas ? Dans l'histoire du monde, on a vu des gens qui ne sont pas directement frappés par des calamités se lever pour justement faire face à ces calamités parce que justement ils trouvent que c'est humainement inacceptable, n'est-ce pas ? On a vu l'apartheid, il y a des blancs sud-africains qui se sont levés aux côtés des noirs pour faire face à l'apartheid. Je vois l'égalité ou l'inégalité homme-femme comme ces genres de calamités pour l'humanité et pour lesquels les gens qui ne sont pas forcément victimes doivent se mettre à côté des autres pour pouvoir arranger les choses.
Merci beaucoup Maxime Winato. Avant de poursuivre la discussion avec une auditrice, on va faire une petite parenthèse. Une petite parenthèse en l'honneur de Fatima Touré, hein, qui est avec nous au téléphone au Mali. Alors, quelqu'un a dit, sous les djihadistes, elle ne craignait pas de poursuivre son combat, ce qui lui a valu beaucoup d'ennemis parmi ceux qui voulaient enfermer la femme dans un carcan traditionnel. C'est Ibrahim Touré qui a dit ça, le président de la section de Gao de l'Association malienne des droits humains, qui avait ajouté, elle est farouchement contre l'excision et la polygamie et sait le faire savoir. Alors, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, c'est une parenthèse. Mais j'en profite pour annoncer qu'une nouvelle exciseuse a été condamnée à la prison au Burkina Faso pour des excisions pratiquées sur des petites filles. Le Burkina Faso, comme la plupart des pays ouest-africains, a débuté une campagne contre les MGF depuis plusieurs années. Mais il y a une recrudescence de cette pratique dans certaines régions. Voilà, on referme la parenthèse pour avoir une auditrice en ligne. Je crois que c'est Marceline Mboyo. Non, c'est pas Marceline, c'est Rabel Nantoumé qui nous appelle du Mali, justement. Rabel.
Oui, allô, bonsoir.
Comment allez-vous?
Oui, je vais bien, Dieu merci, et vous?
Je vais très bien, on vous écoute.
Oui, en fait, je disais que le rôle de la femme est vraiment primordial dans la prévention et puis la résolution du conflit. Parce que généralement, c'est les femmes et les enfants qui subissent les atrocités de la crise. La preuve en est que pendant la crise, pendant l'occupation djihadiste du Nord, les femmes maliennes ont subi beaucoup, beaucoup d'atrocités. Certaines se sont fait violer, d'autres se sont fait flageller. Vraiment, on va parler jusqu'à demain, on ne va pas en finir. Mmh. À mon avis, comme proposition, il faudra vraiment renforcer le rôle des femmes dans la médiation et résolution des crises, et créer des conditions adéquates pour permettre aux femmes de participer à tous les processus et puis d'arrêter de voir les femmes comme une personne inférieure à l'homme. Puisque d'après ce que nos grands-parents nous disaient, la plupart des décisions que les hommes prenaient venaient de la femme. Quand ils n'arrivaient pas à résoudre quelque chose, ils se disent « Ok, remettons ça à demain, la nuit porte conseil ». Et pendant la nuit, ils profitent pour demander à leurs femmes qu'est-ce qu'il faut faire. Donc c'est de la même façon qu'il faudra officialiser les choses et faire participer les femmes dans la résolution des conflits. Cette participation est vraiment importante et permet aux femmes de mieux comprendre les causes des conflits et des alternatives possibles. Elle renforce également les réponses aux besoins des diverses des populations et contribue au maintien de la paix.
Merci.
Voilà, c'est ce que j'avais à dire.
Merci beaucoup, Rabel Nantoumé, pour votre point de vue sur la question. Point de vue très précieux, car c'est le point de vue d'une auditrice, hein, ce qui est très, très, très rare, paradoxalement, dans le magazine au féminin de la Voix de l'Amérique. Alors, mesdames, mesdemoiselles, n'hésitez pas à vous exprimer. Nous avons un autre auditeur en ligne, Abdoulaye Diallo, qui nous appelle de la Côte d'Ivoire, je crois, ou de la Guinée. De la Guinée, Abdoulaye Diallo, c'est ça?
Oui, de la Guinée, oui.
Comment allez-vous?
Oui, je vais très bien, vous?
Très bien, merci, je vous écoute.
Ok, moi je vous appelle depuis Conakry. Je suis déjà ravi de votre émission. Ce que moi je voudrais juste dire, aujourd'hui quand je prends l'exemple dans mon pays, aujourd'hui les femmes participent activement sur la gestion pacifique des conflits. Aujourd'hui, quand on prend l'exemple sur la COFIG, et avec les élections qui viennent à peine de... Nous sommes dans le processus déjà. Quand vous voyez ce que les femmes font, c'est vraiment appréciable. Parce qu'aujourd'hui, ils ont une case de veille qui s'est installée à la veille. Déjà, ils ont fait avant l'élection. Et pendant l'élection, ils sont en train de faire fournir un effort remarquable pour la gestion pacifique des conflits. Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que quand il y a un conflit, les femmes payent le plus lourd fardeau. Parce qu'elles sont là, elles sortent le matin pour aller chercher quoi nourrir leurs enfants et leurs maris. Donc s'il y a un conflit, elles sont la première victime. Donc, ce que moi, je veux dire, en Guinée, les femmes sont là. Ils en ont vraiment besoin d'un soutien inlassable. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez les problèmes que les femmes rencontrent, parce qu'elles n'ont pas un soutien, il faut qu'on les soutienne parce qu'on a vu en eux une volonté. Et j'en suis certaine, quand elles sont soutenues, elles pourront franchement faire une chose. Je prends un exemple aussi sur la transition de la Guinée. Il y a une femme qui a présidé la deuxième institution de notre public, qui était le Conseil national de transition, en l'occurrence Mme Hadja Rabia Toussaint Diallo. Elle a été une femme brave qui a participé activement pendant les gestions de crise en 2006 et en 2007. Elle a été la femme qui a piloté le central syndical pendant ce temps. On a vu ce qu'elle a pu mener. Donc c'est pour dire que les femmes, si elles sont soutenues, elles sont accompagnées, elles peuvent mieux faire, pas pour mieux faire que les hommes, mais elles pourront mieux faire. Ce que moi je vais dire, en Afrique, il faut vraiment qu'on soutienne les dames. Parce que nous, les hommes seuls, nous ne pourrons pas faire grand chose. Il faut qu'on les accompagne. On dit souvent que derrière un brave homme, il y a toujours une brave femme qui est derrière. Donc ce que moi je voudrais juste dire, il faut que les hommes cède la place aux femmes pour voir de quoi elles sont capables.
Merci beaucoup Abdoulaye Diallo pour ce témoignage et votre point de vue. Je voudrais, avant qu'on prenne Mohamed Moukhtarba, revenir avec Fatimata Touré, justement par rapport à ce que vient de dire cet auditeur Abdoulaye Diallo, il faut soutenir les femmes, etc. Ma question sera la suivante. Est-ce que les femmes se soutiennent elles-mêmes, notamment au Mali, en ce qui concerne la résolution des conflits?
J'ai l'habitude d'entendre ce discours-là. J'ai l'habitude d'entendre que l'ennemi de la femme, c'est la femme. Et les femmes, c'est bon, une jalousie mal placée. Les femmes ne sont pas solidaires. Les femmes ne sont pas ça, les femmes ne sont pas ça. Mais je pense que ça, c'est des discours qui ne font pas avancer la condition féminine. Mmh. Et pour la simple raison que si nous parlons d'émergence des femmes dans tous les niveaux, dans tous les secteurs, et Maxime l'a dit, c'est un homme qui combat en faveur de l'émergence des femmes. C'est un homme. Maxime n'est pas une femme, c'est un homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on réussisse à faire émerger une race de femmes capable de convaincre, capable de travailler à faire associer son action, à faire associer l'homme à son action. Que c'est ça notre défi. On n'est pas obligé d'avoir les femmes et toutes les femmes derrière les femmes. Ça, ce n'est pas une obligation. Mais ce qui nous incombe, c'est de travailler à faire émerger des femmes qui soient capables de convaincre et les femmes et les hommes. Mmh. Comme Maxime est en train de le faire. Maxime est convaincu que la femme a un rôle central à jouer à tous les niveaux. Et les yeux fermés, il travaille à faire émerger les femmes parce que la femme est centrale. C'est vraiment un pilier central à tous les niveaux et dans tout le système du développement.
En somme,
c'est une conviction personnelle qui l'a amené à faire ça. Mmh. Et la femme doit travailler à convaincre des Maximes et des Maximes pour que même quand l'autre femme n'est pas associé à l'action, que ce soit des femmes qui soutiennent cette femme-là. Donc, le fait que les femmes ne sont pas solidaires n'est pas en soi un problème. Mmh. Le problème, c'est de réussir à faire émerger des femmes capables de donner des preuves.
Merci
parce
beaucoup.
Ce qui est attendu de la femme, en fait, c'est ça le vrai problème. Pour le même service. Ce qui est attendu de la femme est deux fois supérieur à ce qui est attendu de l'homme. L'homme peut ne pas le faire correctement et que ça passe et que personne ne critique. Mais quand la femme ne le fait pas correctement, on dit alors, regardez, on dit de les faire émerger, mais ils ne sont capables de rien. Voilà.
Merci beaucoup Fatima Touré. Nous avons Youssouf Ouedraogo en ligne, qui est donc à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire. Comment allez-vous ?
Oui, ça va parfaitement. Bonjour à toute la rédaction de la Voix de l'Amérique, aux invités, à tous qui nous écoutent.
Alors, on vous écoute maintenant.
Moi, je dirais que c'est un regret pour moi de constater qu'en dépit du fait que la femme qui est la principale victime des conflits n'ait toujours pas été réhabilitée dans son confort, dans l'esprit de la résolution 1325 du Conseil de sécurité. Cependant, la faute à l'égoïsme, l'égoïsme mondial essentiellement commandité ou entretenu par l'homme. En ce qui concerne l'Afrique, les habitudes ainsi que certaines traditions ou cultures ne rendent pas non plus service à l'émancipation de la gente féminine. Pour sa part, aussi préoccupée par la volonté égalitaire ou paritaire avec l'homme, sans se soumettre à l'autorité masculine dans le foyer, qui se trouve pourtant être la première école de la société. Cette lecture controversée de la légalité homme-femme crée pas mal de soucis dans la société africaine. Et pour que la femme soit suffisamment impliquée dans la prévention des conflits et les processus de paix, il faut déjà que l'homme soit disposé à les écouter attentivement sans relâche, parce qu'il est aussi du devoir de l'homme d'aider la femme. Et c'est pourquoi moi je préconise par exemple la création d'une instance féminine pour les affaires féminines au sein du Conseil de sécurité de l'ONU, qui soit l'instance, n'est-ce pas, centrale de la vulgarisation de l'effort de paix mondiale de la jeune féminine, en parfaite collaboration avec les hommes, contrairement au rôle dépressif qu'on accorde aux femmes dans l'application des réformes d'équilibre que le texte accorde pourtant aux femmes. Parce que quand on voit lors des conflits, par exemple, partout dans le monde, la première à souffrir, c'est naturellement la femme qui se bat pour la famille, pour tout, et elle le fait souvent au prix de sa vie. Madame l'invitée a parlé tout à l'heure de défis. Je pense qu'il y en a, et c'est ensemble qu'il faut relever ces défis-là, et puis voir dans quelle mesure se mettre à l'écoute de la femme, comme je le disais tantôt, parce que la femme est indispensable pour la paix mondiale, pour la paix en Afrique et partout.
Merci beaucoup Youssouf Ouedraogo, c'est toujours un plaisir de l'écouter Youssouf, un habitué du magazine Au Féminin, un véritable humaniste, et j'appelle au secours justement Maxime Winato, si vous êtes encore là. Qu'est-ce que vous auriez à dire sur la réflexion de Youssouf, qui a dit il faut déjà que les hommes soient disposés à les écouter attentivement sans relâche?
Oui, merci. D'abord, bon, il y a peut-être une perspective un peu complémentaire que je voulais apporter. D'abord que l'intégration des hommes dans l'égalité homme-femme n'est pas en faveur des femmes. Et peut-être qu'on n'a pas beaucoup saisi ça par le passé. C'est dans l'intérêt non seulement du pays entier, mais c'est surtout aussi des fois dans l'intérêt des hommes. Quand je prends le cas des conflits, par exemple, quand on recherche la paix, on croit souvent qu'en impliquant les femmes, c'est pour pouvoir tenir compte des souffrances qu'elles ont eues, essayer de les aider. Et c'est pour ça qu'on ne priorise pas ça et on priorise beaucoup plus d'autres choses. Mais en réalité, c'est une erreur de toujours voir les femmes comme des victimes dans les conflits. Il y a une dimension qu'on ne comprend pas, c'est que d'abord, il y a certaines femmes qui sont impliquées aussi dans les conflits activement. On a vu que, par exemple, les chaînes d'approvisionnement, les chaînes de renseignement des parties combattantes utilisent beaucoup de femmes. Il y a, on a vu dans les trucs de Boko Haram, des femmes qui sont kamikazes et autres. Donc, s'intéresser à l'intégration des femmes est aussi directement lié à la réduction des conflits. Il y a une dimension sociale qu'on ne prend pas en compte souvent.
Merci.
C'est que les femmes simplifient le combat. Parce que lorsque les femmes disent aux jeunes, ne faites pas la vengeance, c'est vrai, votre frère a été tué, mais pardonnez, etc., etc., contrairement par exemple à une femme qui dirait, il faut que tu venges ton frère. Si tu ne venges pas ton frère, ne reviens pas à la maison. Donc cette attitude différentielle peut activer le conflit comme peut réduire le conflit. Donc s'intéresser aux femmes dans les conflits, ce n'est pas pour leur propre bénéfice seulement, mais c'est aussi pour le bénéfice de la réduction du conflit.
Merci.
Et ça, c'est quelque chose qui est très important.
Merci beaucoup, Maxime Winato. On est obligé de se quitter. On arrive au terme de l'émission. Je rappelle que vous êtes représentant d'ONU Femmes au Mali. Nous avions également Fatimata Touré, directrice de Greffa à Gao au Mali. Je suis désolée pour les autres auditeurs que l'on n'a pas pu joindre. On fait toujours tout notre possible. Mohamed Mouktarba attendait d'être joint, mais malheureusement, c'est la fin de l'émission. Merci à vous tous, merci aux auditeurs, merci aux Facebookers et à très bientôt. Au revoir.
Arrête. Good night and good luck. This is what it all comes down to. Keep your head high, take